Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 16 juin. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et on commence avec cette information RTL, la naissance d'une nouvelle compagnie ferroviaire française. Ça n'arrive pas tous les jours. Elle s'appelle Midnight Trains, les trains de minuit. Premier départ prévu en 2024. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
Plus qu'un train de nuit, hein, c'est vraiment un nouveau concept.
Oui, c'est en quelque sorte un hôtel sur rail. On ne parle plus de cabine mais de chambre. Il ne sera d'ailleurs pas possible de voyager avec des inconnus, comme c'est le cas aujourd'hui dans les trains couchettes de la SNCF. Il y aura des cabines solo, un duo et familiales, un bar et un restaurant. Les chambres, elles seront modernes avec des sanitaires privatifs et changent radicalement avec les cabines traditionnelles qu'on connaît. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos sur notre site rtl.fr. Ces trains de nuit, ils partiront depuis Paris vers Madrid, Lisbonne, Rome, Vienne, Berlin, Copenhague et d'autres destinations en Europe. Cette nouvelle compagnie ferroviaire veut d'ailleurs plutôt concurrencer l'avion plus que la SNCF et promet que ses tarifs seront pas forcément plus chers que ceux de l'entreprise nationale, mais avec plus de services.
Alors on est d'accord Arnaud, rien à voir avec la SNCF, alors qui finance ?
Eh bien Xavier Niel par exemple, et les deux patrons de cette start-up sont conseillés par d'anciens directeurs d'Eurostar, Thalys, mais aussi par le directeur général du groupe Pierre et Vacances. Midnight Trains va commencer à recruter dans les mois qui viennent. Elle devra néanmoins acquérir ses rames, c'est vrai, pour les transformer notamment en hôtel et trouver dans un premier temps un partenaire ferroviaire pour les faire circuler.
Merci Arnaud Touche, information RTL.
L'Euro sur RTL.
En football, les Bleus entrent du bon pied dans l'Euro. Hein,
les hommes de Didier Deschamps ont tenu leur rang de champion du monde avec une victoire 1-0 sur l'Allemagne. Un but contre son camp du défenseur allemand Hummels. La France s'est vue refuser 2 buts d'Mbappé et Benzema. Et Hugo Lloris n'a pas eu à faire un seul arrêt. Bref, bonne entame. Une victoire du collectif, selon Paul Pogba.
Prestation de l'équipe, c'est ça le plus important. Sans eux, vraiment, j'aurais pas été aussi performant. Parce qu'ils m'ont aidé. Ils ont tous poussé. Tout le monde parlait, surtout avant l'Euro. Favoris, pas favoris. Le groupe de la mort. Par le groupe de la mort. Franchement, nous, on est concentrés dans ce qu'on a à faire sur le terrain. On doit aussi assumer ce statut qu'on a de champion du monde et venir sur le terrain avec l'humilité et faire des performances comme ça. Quand on doit souffrir, on est tous ensemble aussi. Et quand on doit attaquer, on est tous ensemble.
Paul Pogba au micro de nos confrères d'M6. L'avant-match a été marqué par un incident spectaculaire. Un militant de Greenpeace en ULM a survolé le stade de Munich. Il a failli s'écraser en tribune. 2 personnes ont été blessées. Ce premier match des Bleus, c'était aussi la fête des supporters. Heureux de retrouver enfin une grande compétition. Heureux aussi de retrouver Karim Benzema en sélection et particulièrement chez lui, à Bron.
Exceptionnel le retour de Karim en équipe de France. Ah, ça fait plaisir.
Franchement, magnifique.
Déçu pour Benzema, évidemment. Il a marqué dans nos cœurs, donc voilà, c'est plus important.
C'est trop bien, on est français, on est tous contents, c'est trop cool. Ça fait du bien de revoir les joueurs sur un terrain de foot, c'est trop cool. Et de retrouver tout le monde, pouvoir revivre cette ambiance-là, c'est vraiment trop bien.
Allez la France !
Des supporters de Bron au micro RTL de Frédéric Perruche. Dans ce groupe F, le Portugal a facilement battu la Hongrie 3-0. Un pénalty et un doublé de Cristiano Ronaldo qui devient ainsi le meilleur buteur de l'Euro. Il surpasse Platini. Le prochain match des Bleus, c'est contre la Hongrie justement. Ce sera samedi à Budapest. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi cette rencontre au sommet à Genève. Joe Biden doit s'entretenir avec Vladimir Poutine en tête-à-tête. Il a promis de ne pas éviter les sujets qui fâchent, l'Ukraine, les droits de l'homme ou encore les cyberattaques. Et puis aux États-Unis, la quasi-totalité des États de l'Ouest est placée en état d'alerte en raison d'une vague de chaleur particulièrement précoce. Les températures pourraient friser par endroits les 50 degrés.
7h33 en France, le débat sur la fin de vie revient dans l'actualité après la mort d'Alain Coq.
Cet homme de 58 ans était atteint d'une maladie incurable depuis ses 23 ans. Il souffrait le martyr et par 2 fois il avait tenté de se donner la mort en faisant une grève de la faim. Il s'était confié à Nerissa Emanier en septembre 2020.
Moi, pendant 34 ans, j'ai dépassé ma maladie. Bon, elle se réveillait régulièrement, mais elle me permettait de vivre. Maintenant, je veux m'endormir et ne plus souffrir.
En août dernier, Alain Coq avait demandé à Emmanuel Macron de le laisser recourir au suicide assisté. En vain, c'est donc en Suisse qu'il est allé mettre fin à ses jours. Sa mandataire, Sophie Metzeberg, l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle.
Ça s'est passé très vite, c'est-à-dire que il est arrivé, on l'a préparé, on lui a donné son comprimé et en 2 minutes, il n'y avait plus personne. Une dernière boutade et il s'est endormi. Là, il avait vraiment envie d'en finir et il était heureux de partir. Il m'a dit qu'il comptait sur moi pour continuer son combat.
Sophie Medjeberg. Rémi Daillé a atterri ce matin à Paris. Cette figure des milieux complotistes est soupçonnée d'être impliquée dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges. Il a été expulsé depuis la Malaisie. Il doit maintenant être transféré à Nancy pour être mis en examen.
Et puis, c'est jour de sortie pour Thomas Pesquet.
Oui, le spationaute français doit s'élancer aujourd'hui dans le vide spatial pour installer un nouveau panneau solaire sur la Station Spatiale Internationale en équipe avec un Américain. Les deux hommes vont passer 6 heures en impesanteur à 400 km au-dessus de la Terre, ce qui n'est pas sans risque. En 2013, l'Italien Luca Parmitano a failli se noyer dans son scaphandre à cause d'une fuite.
Tout de suite, j'ai essayé d'appeler mes copains. Sauf qu'ils ne m'entendaient pas parce que l'eau avait couvert les microphones, donc ils ne m'entendaient pas. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait retourner au SAS. Sauf que c'était la nuit, il n'y a pas d'autre lumière. Et donc, je suis retourné en utilisant la mémoire, ce que je savais de la station. C'est pour ça que ça m'a pris presque 8 minutes. Je me suis concentré sur quelles pouvaient être les solutions. Je n'avais pas le temps d'avoir peur, ça n'aide pas.
Le spationaute italien Luca Parmitano, joint pour RTL par Sophie Jousselin. Impressionnant, hein ?
Ah bah oui, quelle histoire, quelle aventure.
Et quel calme.
On se retrouve à 8h40, excusez-moi, non ? Je suis laissé perturber pour la face cachée de la une,
absolument,
Isabelle.
Absolument, et à la veille du bac, nous verrons comment la philo peut vous sauver la vie.
Très bien.